sommes en compagnie de Thomas Virbinski, directeur adjoint du musée Matisse situé au Cateau Cambrésis et qui est le commissaire de l'exposition « La créativité demande du courage ». Alors, qu'est-ce que ce terme recouvre, monsieur Thomas Virbinski ?
La créativité demande du courage, qui est donc notre exposition du 9 mars au 30 septembre 2019, dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Matisse. Et la thématique, la citation que nous avons lancée comme carte blanche aux étudiants des écoles d'art de la région, écoles municipales, préparatoires à écoles supérieures, à travailler sur leur filiation avec Henri Matisse, en lien avec la question du motif, des tissus, de la lumière du Nord, enfin c'est très large.
Alors, c'est donc aussi un projet qui va encore, je dirais même bien au-delà, parce que il rentre un peu dans un contexte d'imaginer le musée du 21e siècle. Est-ce qu'on peut s'autoriser à dire cela ?
Alors, oui, on peut s'autoriser. Le musée Matisse a réécrit son projet scientifique et culturel, qui est un dossier très important pour nous parce que c'est notre cahier des charges pour les 5 années à venir. Et dans ce projet scientifique et culturel, nous avons inclus le grand programme du ministère de la Culture qui est lié donc à la définition du musée du 21e siècle, qui se définit comme collaboratif et participatif, un musée presque comme un tiers-lieu. Et nous avons pris cet engagement de nous placer justement de manière très innovante dans la valorisation de cette pépinière d'artistes émergents dans la région des Hauts-de-France.
Alors, il y a donc là déjà tout à imaginer, à penser, ce musée du XXIe siècle. Et en fin de compte, vous êtes le commissaire d'une exposition dont vous ne connaissez pas encore les œuvres.
C'est une grande première pour toute l'équipe et moi-même de préparer une exposition où on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout combien d'œuvres nous allons avoir au final, les supports également. On sait que les étudiants travaillent sur des supports très variés, puisque ESMOD, on va être sur des créations de textiles. L'école d'Amiens, pardon, va être davantage orientée sur les nouvelles technologies. Beauvais plutôt sur la céramique, puisque c'est leur ligne de conduite. Tourcoing la peinture, mais la quantité, les dimensions, c'est une grande surprise jusqu'à la réunion du jury au mois de décembre pour la
sélection. Voilà, parce que c'est ça. Hein. C'est bien un projet qui est au niveau des Hauts-de-France, c'est-à-dire qui regroupe toutes les écoles et écoles d'art ou universités de la région des Hauts-de-France. Et là, quand vous dites donc un jury qui va sélectionner donc les œuvres qui feront, elles, partie de l'exposition. Donc là aussi, pour tous ces acteurs, c'est un peu un flou, si on peut dire, aujourd'hui. Enfin, un flou maîtrisé. Je ne pense pas que vous partez, certes, dans la création, dans l'originalité, là, mais bon, vous maîtrisez quand même l'affaire.
Alors, on suit effectivement les travaux quand même des élèves en distance, mais quand même on les suit. Pour que ce soit encore une surprise assez importante dans le cadre de la réunion du jury. Alors effectivement, le jury qui sera donc composé de Véronique Smag, qui tient donc la galerie éponyme à Paris, qui est une personne très installée depuis des années sur à la fois la jeune création et des artistes déjà placés. Nous aurons également Hélène Lallier, qui est la directrice de l'école d'art de Beauvais, mais également la vice-présidente du FRAC Picardie. Donc il y a un regard justement très acéré sur la jeune génération qui s'occupait avant du centre d'art contemporain que vous aviez à Montélimar. Nous aurons aussi Marine Roux qui est historienne de l'art et commissaire d'exposition itinérante. Et puis il y aura également des membres du musée. Merci.
Bien. Donc effectivement, tous ces acteurs sont à part entière de l'éducation artistique de la région. Et alors, la particularité, effectivement, c'est que vous puissiez faire cohabiter, si je puis dire, à la fois des écoles dites municipales avec des écoles donc supérieures. C'est aussi une belle aventure.
c'est un projet, je vous avouerai, complètement inédit et inouï. En France, aujourd'hui, vous avez quand même un musée départemental qui s'engage sur une période très longue, du mois de mars jusqu'à fin septembre, qui laisse sa salle d'exposition temporaire à des personnes qui ne sont pas connues du grand public, des artistes, alors effectivement amateurs, d'autres qui deviendront professionnels, l'occasion aussi de faire émerger des talents. C'est dans ce cadre-là qu'on se place. Ils sont tous à la même hauteur, que ce soit des amateurs ou des étudiants qui finiront artistes professionnels. Ils auront la même place dans la salle d'exposition, dans le catalogue également. Et ce sont ces différents regards que nous allons croiser pendant cette exposition.
En fin de compte, le musée doit être un vivier de jeunes talents. Il doit être précurseur, il doit être à la découverte de ces jeunes talents, il doit favoriser. Donc c'est bien la mission sur laquelle vous vous engagez quelque part.
Oui, sortons de cette image grand public que certaines personnes peuvent avoir en se disant mais les musées n'exposent que des artistes décédés ou alors des artistes ayant une carrière déjà très reconnue. Nous, on a décidé de se placer tout à fait différemment. Le musée, c'est aussi le lieu pour faire connaître des jeunes talents, les mettre en valeur et ne pas attendre 20 ans ou 30 ans de leur carrière pour se dire, bah, finalement, ils valent le coup d'être exposés chez nous.
Voilà. Alors, il y aura donc un grand nombre de candidats. Hein, parce que là, je crois avoir plus ou moins dénombré une quinzaine d'écoles ou d'universités, voire plus. Il y aura donc, eh bien, évidemment, des déçus, et ces gens ne seront pas là abandonnés, et pourquoi, comme j'ai pu l'entendre, ne pas créer presque un salon des œuvres refusées.
Alors, c'est effectivement un point qu'on a soulevé avec les directrices et les directeurs d'école, qui se retrouvaient embêtés de devoir faire un choix. Alors, c'est un premier pas quand même dans le monde professionnel, c'est-à-dire que plus tard, ces artistes qui vont candidater dans le cadre de projets ou de 1% public, bah évidemment, vont avoir des refus. Donc c'était une première étape de refus, mais ils étaient quand même assez embarrassés, donc nous avons décidé avec certains directeurs d'établissements de lancer dans leur école le salon des refusés. Premièrement, c'est un clin d'œil historique qui est très beau, et puis c'était aussi pour ces candidats d'être mis en valeur au sein de leur établissement.
Alors, Monsieur Tuba-Wierbiski, je souhaiterais peut-être qu'on aborde un petit peu le déroulement de ce projet. Donc, comment ces étudiants vont démarrer, quelles seront les étapes intermédiaires? J'ai bien compris qu'à la fin, il y aura un lauréat qui va pouvoir exposer dans une galerie à Paris.
Oui.
Bon, mais comment ça va se passer? Peut-être que des écoles ne fonctionneront pas au même rythme, de la même façon. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu d'éléments quand même?
Bien sûr. Alors, j'ai fait le déplacement dans chacune des écoles pour rencontrer donc l'équipe pédagogique, la direction, et voir comment on pouvait inscrire ce projet dans leur programme, puisqu'il faut évidemment que ça puisse rentrer dans un programme pédagogique avec des enseignants. Et c'est à partir de ce moment-là où s'est engagée une réflexion sur la sélection des étudiants, la sélection aussi des professeurs. Il y a eu pour chaque école une visite qui a été préparée sur les collections Matisse, parfois même un clin d'œil puisqu'ils ont eu le droit de visiter nos réserves pour certaines écoles quand elles avaient le temps, pour entamer donc tout ce travail qui effectivement est très rapide puisque la rentrée était au mois de septembre pour un rendu début décembre. Et on est sur un rendu exposable, donc on n'est pas sur une maquette ou un travail qui n'est pas terminé. Donc le temps est très court, mais ce qui a été merveilleux, c'est premièrement l'énergie des enseignants, parce qu'ils ont vu que c'était une très belle opportunité, et c'est le même niveau au niveau des élèves, où là les élèves ont dit « mais pour nous, c'est un levier formidable, donc on va mettre les bouchées doubles, et on va vraiment donner une énergie remarquable pour ce projet ». Et aujourd'hui, les retours que nous avons sont très positifs, de voir ces idées et ces projets émerger.
Alors, si je reprends un peu la phrase d'Henri Matisse, il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfant. Comment, je dirais, est reçue l'œuvre de Matisse auprès de tous ces artistes de demain ? parce que il fallait quand même accrocher. L'idée originale, elle est là. La démarche est remarquable. Elle est aussi très novatrice. Mais comment, quel attrait a pu jouer Matisse? Comment tous ces étudiants ont été captés par Matisse? Ou le seront-ils à la fin du projet?
Alors, ce qui est intéressant sur le lien avec Matisse, qu'on n'a peut-être pas, il faudrait le tester avec Picasso, c'est qu'il a un côté très ouvert. Les étudiants se rendent compte assez rapidement du champ infini qu'a ouvert Matisse sur la réflexion, sur la peinture, sur le lien avec le modèle, avec le motif. Donc, on n'est pas sur un artiste qui a cloisonné sa réflexion, mais au contraire, qui a dégagé un potentiel colossal. Et les étudiants savent qu'ils peuvent piocher dans ce potentiel et qui n'ont pas le poids très fort que pourrait avoir un artiste, une forme de paternité beaucoup trop pesante. On est plutôt sur un guide, une forme d'accompagnement, d'une ouverture, de montrer le chemin pour que par la suite, eux continuent la réflexion de Matisse. Après, je vous avouerai que ça serait une belle surprise au mois de décembre de voir concrètement comment ça s'est réalisé, plastiquement parlant, hein, avec des versions très différentes, puisque nous travaillons également avec le Frénois, où nous savons qu'on va être sur une œuvre virtuelle, donc également comment les nouvelles technologies peuvent aborder le travail de Matisse.
Eh bien, écoutez, Monsieur Wierwinski, je vous remercie pour ce premier entretien, parce que je pense que, vu la dimension de ce projet, il y en aura bien d'autres.
Richard.
Et alors Richard, qu'est-ce qui vous passionne déjà dans ce projet ?
Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est déjà de découvrir un peu plus sur Matisse, parce que de base je le connaissais un petit peu mais pas en profondeur. Et ce projet m'a vraiment permis de plonger un peu dans l'univers Matisse plus profondément en tout cas. C'est ce qui m'intéressait.
Matisse parle encore aux jeunes créateurs encore et beaucoup.
Oui, clairement. En termes de couleurs, en termes de pas mal de choses, il parle encore beaucoup aujourd'hui dans le domaine de la création. Je pense qu'il y a encore une grosse influence aujourd'hui.
Vous le regarderez toujours avec des yeux d'enfant ?
Oui, clairement, oui, je pense.
Voilà, bonjour. Vous appelez comment ?
Je m'appelle Yue.
Eh bien, enchanté. Alors, une simple question comme ça. Qu'est-ce qui vous passionne déjà dans ce projet ?
La passion, c'est la première fois que j'ai utilisé l'argument visuel pour réaliser mon projet. Et c'est aussi sympa d'utiliser les anciens tables pour créer de nouvelles choses. Ça m'intéresse. C'est pour changer un peu la vision de nos regards.
Très bien. Alors, Mia, qu'est-ce qui fait que là, vous êtes déjà passionnée par ce projet ?
D'abord, ça a été la visite guidée sur Matisse qui nous a appris beaucoup, et notamment moi sur la végétalisation de la femme chez Matisse, ce qui me passionne ici, et le fait de faire de l'animation, augmenter des œuvres, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire et donner aux spectateurs la possibilité d'apprendre quelque chose en plus de l'œuvre qu'ils regardent.
Bien, monsieur Abba, vous êtes de l'université d'Amiens,
Vous êtes professeur donc dans cette école supérieure d'enseignement du design. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette école ?
Oui, bonjour. Alors, c'est une école supérieure d'art et de design qui a une particularité, c'est qu'on enseigne essentiellement du design et surtout du design graphique. On ne fait que le design graphique. Donc, design graphique, ça concerne l'édition, la typographie, du travail aussi de design numérique. Voilà, on n'a pas de section art, on n'a que du design graphique en 3 et 5 ans et même un post-diplôme. De recherche typographique et de recherche gestual script, qui est de la recherche du langage sourd-muré gestuel.
Et ça concerne combien d'étudiants, là ?
On n'a qu'une classe par année, donc on doit avoir, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'on est quelque chose comme 120, 130, 140 étudiants dans toute l'école. Oh, ben, peut-être plus, 160 peut-être.
Très bien, ça veut dire 160 candidats à ce projet un peu fou. Dans le cadre de 150e anniversaire de la date de naissance de Matisse. Alors, pour vous, quel est l'intérêt de cette école de participer à ce projet ?
Alors, moi, il y a essentiellement, j'enseigne en troisième année, donc année DNA diplômante à l'ESAD d'Amiens. Et donc, on participe à ce projet essentiellement ma classe de troisième année. Donc, c'est-à-dire qu'on a 34 étudiants plus 2 Erasmus, donc on a 36 étudiants qui participent à ce projet, donc 36 propositions. Et j'ai tenu à participer à ce projet et à répondre à cette proposition du musée, parce qu'il m'a semblé intéressant pour des élèves d'une année diplômante qui vont peut-être, pour certains, nous quitter à la fin de cette année, d'avoir un projet comme ça qui reste suffisamment ouvert, en fait, et, parce que je leur ai laissé la possibilité de travailler soit sur un design, on va dire, plus d'information, soit sur un travail plus artistique et plastique, parce que certains peut-être continueront chez nous à faire du design graphique, mais certains partiront peut-être dans des écoles, on va dire, de photographie, des écoles d'art pour devenir artiste plasticien, et d'autres arrêteront là leur formation. Donc je trouvais ça intéressant de leur laisser une possibilité comme ça de réponse suffisamment large pour que chaque étudiant puisse mettre sa propre touche selon son futur désiré.
Bien, un tel projet, ben, il y a des difficultés, il y a effectivement aussi beaucoup d'enjeux. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de tous ces problèmes que vous pourriez rencontrer dans ce projet ?
Alors moi, j'ai insisté dès le début dans ce projet. J'ai décidé que le rendu serait essentiellement de la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est un principe qui s'appuie essentiellement sur des choses réelles, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, le visiteur du musée pourra circuler avec une tablette ou son propre téléphone portable, muni d'une application gratuite, Artivive, et pourra donc regarder toutes les œuvres du musée et elles seront augmentées. C'est-à-dire que sur son écran de téléphone portable, de smartphone, on verra donc l'œuvre, mais on la verra s'animer sur l'écran même, et on pourra se déplacer dans l'espace et voir l'animation continuer à être calquée comme ça sur l'œuvre, comme si on regardait une œuvre avec un calque sur lequel on serait en train de dessiner en direct. Donc chaque œuvre du musée sera comme ça augmentée. Il y aura 36 propositions d'augmentation dans le musée.
Alors, il y aura des candidats heureux, des candidats un peu moins heureux. Il y aura pas, tout le monde ne sera pas en exposition à la galerie à Paris. Alors, que vont faire ces étudiants ? Est-ce qu'ils ont pensé à créer peut-être un salon des œuvres refusées, si je puis dire ?
Alors, il pourrait y avoir effectivement un salon des œuvres refusées. Ou alors, l'avantage de la réalité augmentée, c'est qu'en fait, tout est stocké comme ça sur un serveur, sur un cloud, qui est comme en virtuel. Les choses peuvent continuer à exister sans qu'on le dise. Donc on peut toujours voir les choses s'animer sans qu'il y ait aucun message qui le dit, mais ça reste visible de manière virtuelle.
Alors, si je reviens un peu à une question un peu plus générale, d'ordre général, quel est aujourd'hui le rôle de l'enseignement de l'art aujourd'hui ? Parce que on donne peut-être pas suffisamment d'importance. Il y aura des débouchés, je pense, pour ces gens demain, mais c'est aussi le rôle de l'enseignement de l'art aujourd'hui.
Alors complètement, il y a des débouchés, on est dans justement un des secteurs où il y a des débouchés. Je ne vous le dis pas de manière, voilà, je sors de l'école, je trouve un travail rémunérateur, etc. Mais dans l'ensemble, les études ont été faites justement pour les, sur le que deviennent nos étudiants. Et ils ont tous un travail. Alors, encore une fois, il n'est pas nécessairement le travail pour lequel on... Mais c'est la palette en fait, d'emploi est assez large. Parce qu'en fait, ce que j'insiste surtout auprès de mes plus jeunes étudiants, comme les étudiants d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, une école d'art, sert surtout à former un individu. Et c'est une école d'art ou de design d'ailleurs. Et le principe d'une école d'art et de design, c'est qu'on va leur enseigner à déjà avoir une faculté d'adaptation quant au monde réel. C'est-à-dire qu'on leur donne des commandes, on leur passe des commandes, ils ont des contraintes et ils doivent faire surtout preuve d'observation, d'analyse, mais surtout d'adaptation par rapport à ces contraintes. Donc je pense qu'au contraire, nos étudiants dans les écoles d'art et de design en France ont justement cette souplesse d'adaptation par rapport à n'importe quel cas de figure.
Bien, monsieur Abba, merci. Alors on peut dire que ce projet démarre en novembre, que donc la remise de la copie, on peut dire, ça serait déjà décembre, hein, qu'ensuite un jury va sévir pour en arriver donc à une exposition en mars, et donc qui aura bien lieu ici au musée Matisse, donc de mars à novembre d'après. Et là, on peut se dire quand même que c'est un terrible défi pour ce musée Matisse d'organiser une exposition sans avoir encore les œuvres.
Ah oui, là, il faut se projeter, il faut imaginer. C'est là où les mots ont leur importance aussi. Et c'est là où, finalement, une image peut avoir un pouvoir assez fort, un pouvoir, on va dire, d'accroche, pour justement faire rêver le jury et se dire, voilà, ce qui va préfigurer, voilà ce que... Et parfois, c'est comme ça, en tant qu'artiste, plasticien, pour ma part ou d'autres, on fonctionne, c'est qu'il faut trouver une image qui soit porteur de rêve et d'espoir et d'espérance et d'envie pour que le commanditaire vous dise, ou votre mécène vous dise, on y va.
Eh bien, merci beaucoup. Nous aurons probablement l'occasion de nous retrouver tout au long de ce projet. Merci, monsieur Abba.